Donc, le gros problème, c'est que, en fait, très rapidement, on délaisse le Seigneur. Et moi, c'est ce qui m'est arrivé, donc à l'âge de à peu près 15-16 ans, après avoir donc eu une culture et une éducation chrétienne, catholique, par ma mère, j'ai commencé à... Je suis arrivé dans un lycée où, finalement, un lycée laïque, public, où on n'entendait plus parler de Dieu, et puis Dieu n'était plus véritablement considéré comme une hypothèse digne d'être pensée. Bref, Dieu était mort, quoi. Dieu était complètement enterré. Ce qui existait à ce moment-là, si vous voulez, c'est la lutte politique, la révolution permanente, que ce soit celle de Marx, Lénine, Trotsky, ou même Bakounine, si on parle des extrêmes. Et moi, je suis tombé donc dans une espèce de gauchisation de ma vie. Voyez, dans l'extrême, plutôt l'extrême gauche, voyez. Disant que finalement, le monde était tel qu'il est, mais que ce monde, il fallait le remettre en cause, il fallait tout changer dans ce monde. Et évidemment, le problème de la révolution marxiste, c'est que c'est les autres qui vont pas. Vous voyez, c'est le problème, c'est toujours le... Il faut... Si on change les structures, tout ira bien. Or, je pense que c'est une grave, grossière erreur, et que le Christ nous dit que, justement, la révolution, c'est la conversion, la véritable révolution, c'est la conversion du cœur. Le changement du cœur à 180 degrés, c'est se tourner vers le Seigneur, et puis surtout accepter de se reconnaître pécheur et accueillir le salut. Gros problème, c'est qu'on est dans un monde qui est clos sur lui-même. On est dans un monde de plus en plus athée, parce qu'il y a eu tous les fondements chrétiens, toutes les valeurs chrétiennes qui ont été minées par des philosophes dont je me gargarisais à l'époque. Sartre, Camus, vous voyez, ce sont les Nietzsche, ce sont les grands maîtres à penser du XXe siècle. Et qui n'en finissent pas d'ailleurs d'avoir aussi donc des héritiers. Ça n'en finit plus. On est dans un monde qui est donc fort clos sur lui-même. Il n'y a d'horizon que ce monde-ci. Voyez, Dieu n'est plus envisagé, Dieu n'est plus véritablement même plus une hypothèse. On n'en parle plus. Ça y est, on l'a enterré. Il faut vivre comme ça, comme dit Sartre. Il y a l'être et le néant. Et puis, et puis la nausée en plus de vivre entre l'être et le néant. Vous voyez, c'est ça Jean-Paul Sartre. Tout à l'heure, je suis passé donc comme vous, donc avec le Seigneur dans les rues dans lesquelles je marchais lorsque j'étais étudiant. Alors évidemment, ça m'a fait vraiment tout drôle de voir ce que j'étais, de me plonger dans cette perspective, de me rappeler le plein de souvenirs à travers les rues, rue Saint-André des Arts, etc., que j'arpentais avec des amis étudiants, errant d'ailleurs sans trouver véritablement de sens à ma vie. Parce que le problème, c'est que ce monde-là, vous voyez, qui est finalement fondé sur des maîtres à penser qui n'en sont pas véritablement ou qui pensent mal, qui pensent faux. Parce qu'ils vous disent que finalement le monde est clos sur lui-même et qu'il n'y a surtout pas de Dieu qui existe, et donc que vous devez vous en sortir tout seul, ça vous mène forcément à une impasse, ça vous mène forcément à un manque de raison d'être et de raison de vivre, et ça vous mène au découragement et même au désespoir. Et alors contre les désespoirs, qu'est-ce qu'il y a ? Il y a les plaisirs qui s'offrent à vous, et les plaisirs des étudiants, vous savez, bien souvent, c'est, évidemment, il y a le sexe et la drogue. Et puis le rock'n'roll. Comme le chantait un artiste, je crois qu'il s'appelait il avait un titre qui s'appelait « Sex and Drugs and Rock'n'Roll ». C'est ce à quoi mène, pour les jeunes, bien souvent. Alors maintenant, c'est plus le rock'n'roll, c'est le rap, c'est la techno, je ne sais pas. Mais vous voyez, c'est une sorte de vide. Vous avez un vide existentiel que vous essayez de meubler, forcément. Pourquoi les gens se droguent ? Pour les jeunes se droguent parce qu'ils ont un vide, alors ils ne savent pas quoi faire de leur vie, ils s'ennuient. Alors ils se droguent parce que ça va combler un manque. Et ils le comblent mal, bien entendu. C'est une compensation qui est mauvaise, bien entendu. C'est très mauvais. Je ne veux pas faire l'apologie de la drogue, même si j'ai plongé dedans quand même certaines années, pas mal d'années de ma vie. Hein, bon, voilà. Tout en étant étudiant, tout en ayant un travail, j'ai trouvé un travail de journaliste. J'ai fait des piges pour des journaux, etc. Bon, attendez que je suis pas tombé dans les drogues dures. J'aurais pu, mais plutôt les drogues douces, enfin Marie-Jeanne, hashish, etc. Bon, mais en même temps, je suis pas tellement pour dire que c'est des drogues douces. Hein. Vous voyez, commissaire. Parce que je pense qu'il n'y a pas de drogue douce, voilà. Non, je pense pas, et nu hashish, la marijuana, surtout à haute dose, et en même temps avec les doses qui sont données à l'heure actuelle, c'est avec le THC, le composant hein, qu'il y a dedans, et c'est très très fort, et de plus en plus fort. Donc si vous voulez, faut voir, quand on dit drogue douce, et quand on veut légaliser surtout les drogues douces, moi je personnellement je suis contre. Et j'en sais quelque chose parce que j'en ai fait l'expérience. Et je pense que ça désengage de la vie, ça vous met dans un état d'esprit, dans un monde qui est votre monde, qui est un monde intérieur, mais justement sans véritablement de but, sans vraiment de sens véritable. Et c'est des paradis artificiels, hein, comme dit Baudelaire. C'est un paradis artificiel, c'est pas le véritable paradis. Et ça vous éloigne plutôt du vrai paradis. Ou l'éloigne de Dieu, je pense vraiment, parce que précisément ça vous maintient, même s'il y en a qui en prennent comme des antidépresseurs, moi je pense que justement ça vous maintient dans un état de dépression, hein, dans un état de blues profond, de cafard, de blues profond, donc je pense pas que ce soit très très bon. Enfin, en tout cas, c'est en tout cas le succès d'année que j'ai trouvé pour essayer de meubler ce vide existentiel qui m'était proposé par notre pauvre monde, hein, qui ne pense plus avec l'Évangile, qui ne pense plus selon Dieu, qui est complètement désaxé, qui a totalement écarté Dieu de son horizon et qui n'offre plus à notre jeunesse. Notre monde adulte, qui est un monde économique, voilà. Alors, il n'y a plus que l'économie, l'homme est économique, alors que je pense qu'il n'est pas d'abord économique, je pense que l'homme est une personne humaine et qu'il doit répondre à sa vocation de personne, hein, et unique, aimé de Dieu. Voilà. Moi, c'est ça, et donc il a fallu que le Seigneur passe dans ma vie, et je vais vous expliquer comment, mais on va d'abord faire un petit chapelet de la miséricorde. Alors, comment le Seigneur s'y est-il pris pour me tirer de ce bourbier, hein, dans lequel je m'étais enfoncé? Alors, le Seigneur, il est vraiment prévenant, très très prévenant, et j'avais déjà dans mes études de lettres, je faisais des études de lettres, une licence, et il y a un prof de lettres, absolument incroyable, pourtant c'est à Sorbonne Nouvelle, Paris 3, Sancier, à côté, pas loin d'ici, qui nous avait dit, si vous voulez comprendre quelque chose à la littérature que vous étudiez, c'était le 16e siècle français, il faut que vous étudiez un peu le catéchisme, vous fassiez prêter même une Bible par quelqu'un que vous, voilà, de votre connaissance, parce que sinon vous ne comprendrez pas grand-chose, parce que les fondements chrétiens sont très profonds, fondement chrétien de cette littérature. Donc, c'était pas tombé dans l'oreille d'un sourd, mais ça, je pense que le Seigneur y est pour quelque chose. L'Esprit Saint, vous voyez, il travaille, hein, même si on n'est pas conscient que Dieu existe, lui, il existe, et puis il fait tout pour nous attirer à lui. Hein. Dieu n'abandonne jamais son enfant. Hein. On le verra à la fin avec la parabole de l'enfant prodigue, qui pour moi résume tout le christianisme, enfin tout l'Évangile, hein, toute la miséricorde divine. Hein. Il faut bien comprendre le cœur de Dieu, hein, et le cœur de Dieu nous est vraiment signifié dans cette parabole, dans le chapitre 15 de Saint Luc, avec un commentaire de Charles de Foucault. Je terminerai par là. Mais pour revenir donc à moi, donc j'ai demandé une Bible à un de mes amis, qui était chrétien, mais dont je me moquais pas mal du christianisme, enfin de sa foi. Je me disais, comment est-ce que tu peux croire en Dieu dans un monde aussi pourri ? Remarquez, c'est une question légitime. Hein. Ouais, mais de toute façon, on vous dit que le péché originel, c'est... alors évidemment, on ne peut pas y répondre à l'heure actuelle. Il n'y a pas de mal. Hein ? Bon. Mais justement, c'est en lisant la Bible que j'ai fini par lire, mais que j'ai fini par lire un an après qu'il me l'ait prêté, hein, parce que ça n'est pas venu comme ça, mais le Seigneur est quand même patient, très très patient. Et un soir, je rentre, bon, je fumais quand même pas mal, hein, toujours, hein, du matin jusqu'au soir. Et le soir, je rentre et puis je me dis, il faut quand même que j'étudie, voilà, que j'étudie un peu quand même, le livre, les livres qui nous sont confiés. Et le livre que j'avais à lire, c'est un livre de Huysmans, qui s'appelle À rebours, un écrivain converti lui aussi du 19e siècle, grand converti du 19e siècle. S'il a même été dans le satanisme et tout ça, enfin, je peux vous dire, Huysmans, c'est quelque chose, hein, surtout la luxure, satanisme, etc., enfin, vraiment. Et il décrit beaucoup ça, sa vie à travers son héros, dans ce livre qu'on avait à lire. Et surtout, il fait une préface, Huysmans, qui m'a complètement bouleversé, parce que vous savez, la foi, pour moi, c'était l'apanage des grenouilles de bénitier ou des grands-mères, mais c'était pas pour les gens intelligents, c'était pas possible. Les gens intelligents pouvaient pas, les artistes, les grands, hein, pouvaient pas avoir la foi, c'est pas possible. Vous voyez, une espèce de mépris comme ça pour la foi prétendument, comme Nietzsche qui prétend que la foi c'est pour les faibles. Hein, pour les nuls, pour les faibles, mais pour les gens quand même un peu élevés, ben non, ça tient pas debout. Ah oui, mais là, je découvre une préface donc à son livre de Huysmans qu'il a écrite 10 ans après sa conversion à la trappe, donc dans une trappe, la trappe de Soligny, la grande trappe, où il va finalement faire une retraite et où il se confesse et il reçoit la grâce du pardon du Seigneur et là, il change totalement de vie. Et donc la préface, il a quand même du courage, parce que dans cette préface, 10 ans après l'écriture d'À rebours, il dit d'abord qu'il ne changerait absolument aucune ligne à ce livre, parce que ce livre décrit bien l'état d'esprit dans lequel il était avant sa conversion, donc il n'a rien à changer. Léon Blois, qui est un grand écrivain catholique, après avoir lu À rebours, a prophétisé sur Huysmans, en disant, dans un article qu'il faisait de recension de commentaires de ce livre, À rebours, à la fermeture de ce livre, conclut comme ça son article, il ne reste plus à Huysmans que la croix du Christ ou la bouche du canon. La croix du Christ ou la bouche du canon. Vous voyez ? Le suicide ou la croix du Christ. Voilà ce que dit Léon Blois sur Huysmans, grand écrivain, donc qui n'est pas encore converti avec un rebours. Il ne sera que ultérieurement. Donc en allant à la trappe de Soligny, on reçoit la grâce du Seigneur, il se convertit totalement au catholicisme, il commence à écrire des livres catholiques, authentiquement catholiques, et alors que c'était un grand ami de Zola, vous voyez. Bon. Et cette préface de Huysmans, donc quelques pages, hein, m'a complètement bouleversé. Parce que c'est une confession de foi, en fait. Et justement, où il dit précisément que toute la philosophie ne vaut pas une page d'évangile. Que tout Schopenhauer est contenu dans une phrase de limitation, il n'est pas de pire misère que de vivre sur cette terre, etc., etc. Il parle de l'Église, il parle du catéchisme, il parle du péché originel, voilà, sans lequel l'homme est incompréhensible à lui-même, etc., etc. Et moi, ça me bouleverse, parce que c'est un écrivain que j'estime beaucoup, et en même temps, bon, bah, je me dis, voilà, c'est possible, il y a des gens qui sont intelligents, qui ont la foi, qui ont reçu la foi, pourquoi pas. Alors là, je me lève, et puis je me dis, bah tiens, bah, je me souviens que j'ai peut-être... Et si c'était vrai, finalement, est-ce qu'il y a quelque chose à trouver dans ce christianisme que j'ai complètement rejeté aux oubliettes, bon. complètement. Hein. Complètement, complètement. Je n'ai plus du tout de vie. Je vis vraiment ni Dieu ni maître, vous voyez. Hein. Complètement anarchiste, si vous voulez. Parce que là, j'ai quand même fini par comprendre, avec Solzhenitsyn qui nous parlait des goulags et tout ça, que finalement, le marxisme, c'était pas mieux que le fascisme. Quoi, vous voyez. Donc, toutes les idéologies sont vaines, sont destructrices. Donc, bon, voilà, on devient anarchiste finalement. On n'a plus confiance en rien. Et donc, mais est-ce qu'on ne peut pas s'en sortir par le haut? C'est ce qu'on va voir. Alors, comment le Seigneur m'a-t-il revêtu de sa joie? Parce que c'est très beau ce chant, hein. Revêt-moi de ta joie. Vous voyez, le monde est triste. Le monde est parfois très désespéré. Et moi aussi, je pense que comme Huysmans, j'ai vraiment pensé au suicide, comme d'autres aussi. Philosophe Jacques Maritain, sa femme aussi, qui un jour, dans le jardin du Luxembourg, se met un ultimatum. S'il n'arrive pas à trouver, à découvrir la vérité, finalement, la vérité des choses, s'il n'y a pas un absolu à l'existence, il décide de se donner la mort. Ah oui, c'est... Il y a des gens qui, comme ça, qui peuvent vivre sans, comme des plantes, hein, je dirais. Bon, on vit, on meurt et c'est normal. J'entends de plus en plus ça. Je trouve d'ailleurs sidéré parce que l'homme est bien plus que la plante et que les animaux et les minéraux, hein, justement parce qu'il est, il a une âme spirituelle. Il est capable de parler avec les autres, parle de langage, de communiquer avec les autres, mais aussi de communiquer avec Dieu. Mais tant qu'on n'a pas découvert ça, tant qu'on n'a pas découvert qu'on a une âme finalement et que cette âme est peut-être habitée par Dieu, ben c'est vrai qu'on passe à côté de quelque chose, d'un trésor, et finalement on ne vit pas, on survit, mais on ne vit pas véritablement. Alors donc ce soir-là, je reviens à ma chambre d'étudiant où j'ai lu donc cette préface de l'écrivain catholique converti, Huysmans. Là, je me dis, bon, le temps est peut-être venu d'ouvrir la Bible. Alors, je vais chercher ma Bible dans ma bibliothèque. Elle était un peu poussiéreuse, comme je vous ai dit. Je ne l'avais pas ouverte depuis un an. Alors, elle était quand même pas mal poussiéreuse. Alors, j'enlève la poussière, puis je l'ouvre. Puis alors, je me dis, tiens, je vais commencer par la préface. C'est quoi la préface? Au commencement, Dieu créa le ciel et la terre. Il n'y a pas de préface. C'est peut-être bien d'ailleurs qu'il n'y ait pas de préface. Enfin, préambule, la préface est un peu rude. Alors, je me suis dit, oui, c'est beau, c'est très beau, hein, mais c'est trop beau pour être vrai. Ah oui, c'est toujours un problème, parce que, et ça, il faut que vous vous rendiez compte de l'espérance qui est en vous. Comment se fait-il qu'un Dieu qui est bon, souverainement bon, ait créé un monde où on souffre, on meurt, on commet des crimes épouvantables? Il faut bien l'expliquer, ça. Eh oui. C'est légitime quand les gens vous disent, mais alors, rendez compte de... Vous voyez, si vous dites, bon, bah, Dieu a créé le monde tel qu'il est, et puis voilà, ça le satisfait, c'est très bien, etc. Ben, non, il n'a pas voulu un monde où de bruit et de fureur tel qu'on le connaît maintenant. Non, il s'est passé quelque chose. Ce quelque chose, alors, j'ai donc pas été convaincu par le premier chapitre, les deux premiers chapitres de la Genèse qui traitent de la création du monde. Par Dieu, Dieu a tout fait à partir de rien. Ça nous dit pas, c'est pas un reportage de journaliste ni une étude scientifique, hein, les deux premiers chapitres de la Genèse. Ça veut simplement dire que Dieu est créateur de tout ce qui est. Voilà. Et il a tout fait à partir de rien. Tout. Voilà. Exactement. Il est créateur. Voilà. Il est créateur et père. Oui, mais en même temps, pourquoi il y a le mal? Pourquoi il y a le mal? Alors, faut aller jusqu'au chapitre 3 de la Genèse. La chute de l'homme et de la femme. Alors là, ça m'a véritablement sonné. Hein, mais vraiment sonné. Pourquoi? Parce que je me dis, enfin un bouquin qui me parle de la mort, que la mort, elle n'est pas forcément congénitale à l'homme, elle n'est pas normale, elle n'est pas naturelle. Finalement, on n'est pas fait pour mourir. C'est ça que veut nous dire le livre de la Genèse. Dieu ne nous a pas fait pour la mort. Vous savez, il y a un petit verset dans le livre de la Sagesse qui est magnifique. Dieu n'a pas fait la mort. C'est par l'envie du diable que la mort est entrée dans le monde. C'est un verset que j'aime beaucoup, ça. Parce que, vous voyez, ça dédouane Dieu de tout mal, de tout le mal qu'il y a dans le monde. D'où est-ce qu'il vient, le mal? Ben, le serpent était dans le jardin. Et on a succombé au serpent. on a succombé à celui qui est jaloux de l'homme et de Dieu depuis les origines. Que Dieu a créé bon, bien sûr, mais qui s'est perverti, qui s'est dévoyé, et qui a entraîné dans sa chute l'homme qui s'est aussi dévoyé. Il a perverti donc l'homme sa liberté, et le mal vient de là. C'est aussi simple que cela. Et si vous ne croyez pas au péché originel, d'abord vous n'êtes pas catholique, ni même chrétien, parce que, et vous allez être incompréhensible à vous-même, parce que le monde va vous être incompréhensible. Moi, je peste contre les théologiens ou pseudo-théologiens qui, à l'heure actuelle, contestent ce dogme. C'est absolument un dogme incontournable, sans lequel on ne comprend rien au mystère de la rédemption. C'est clair. Bon, ça, je me fâche, hein, sinon. Parce qu'il faut se fâcher pour la vérité, vous savez. Hein, à l'heure actuelle, on peut se battre pour la vérité, mais s'il faut se fâcher pour la vérité révélée par le Christ. Et le mystère du mal est justement un mystère qui est révélé. C'est une révélation. Il faut l'accepter. C'est peut-être très difficile à accepter, hein, parce que justement, on n'y était pas, mais on voit les dégâts, on voit les conséquences du péché originel, auquel tous on participe par nos propres péchés personnels. Bref. Donc, ce chapitre 3 de la Genèse m'a véritablement éclairé sur le fait que Dieu n'a pas fait la mort. Et donc cette mort qui est liée à quelque chose qui est une rupture avec Dieu, finalement, est-ce que ce ne serait pas justement la réponse à tout mon désarroi finalement? Et là, je me dis en moi-même, c'est arrivé à beaucoup, hein, Seigneur, enfin Dieu, je ne l'appelle pas Seigneur encore, Dieu si tu existes, fais quelque chose. Voilà, moi je veux bien croire en toi si tu existes, je suis prêt. Vas-y. Et puis là, c'est comme si je lui avais envoyé un SMS, et encore même pas, parce que le SMS, il faut quand même le temps de répondre, mais là, ça a été presque automatique. Aussitôt, comme dit Claudel, c'est Claudel qui dit ça quand il entre à Notre-Dame de Paris, au Vêpre de Notre-Dame de Paris, et qu'il est touché par la grâce de Dieu, il dit « J'ai été touché par l'éternelle innocence et enfance de Dieu. » Et c'est un sentiment d'une présence de Dieu à l'intime de soi-même qui est absolument extraordinaire, une forme de tendresse et de douceur de Dieu, vous voyez. C'est Jésus doué et humble de cœur qui vient vous, qui dit « Oui, je suis là, je t'attends, mais je t'attends depuis longtemps. » Enfin, après, on comprend qu'il attendait depuis longtemps, il est très patient, Seigneur, mais qu'il m'attendait et qu'il ne me juge pas, mais il m'attend. Ça, c'est extraordinaire, parce que ça, c'est vraiment là. Vous voyez, c'est... Mais en même temps, on a conscience qu'on est complètement indigne, on est un peu comme Saint-Pierre, vous savez, qui se prosterne aux pieds de Jésus. « Aie pitié de moi, je suis un pauvre pécheur. » Jésus qui dit « N'aie pas peur, ne crains pas. Hein? » Vous voyez, et j'ai vraiment ressenti que Dieu ne m'appelait qu'à une chose, c'était à recevoir son pardon. À être pardonné et à vivre une vie nouvelle qu'il m'accordait par le don qu'il me faisait de son Esprit Saint, de sa grâce, du don de sa vie, quoi, finalement, hein, qu'il a payé cher, puisque c'est sa rédemption, hein, rédemption par sa croix, hein, sa croix, sa mort, sa résurrection, son mystère pascal, qu'il m'apporte maintenant, qu'il m'a pu m'apporter, eh bien, ce qui a pu me ressusciter, quoi. Qui a pu véritablement renouveler totalement ma vie parce qu'il y a eu un avant et un après. Je voudrais citer comme en écho et pour terminer, pour conclure, ces mots de cette confession dans les méditations sur les évangiles du bienheureux Charles de Foucault. Et puis quand je suis revenu vers vous bien timidement en tâtonnant, vous faisant cette étrange prière, « Si vous existez, faites que je vous connaisse. Ô Dieu de bonté qui n'aviez cessé d'agir depuis ma naissance en moi et autour de moi pour amener ce moment, avec quelle tendresse, accourant aussitôt, vous tombâtes sur mon cou, m'embrassâtes. Avec quel empressement vous me rendîtes la tunique d'innocence, et à quel divin festin, bien autre que celui du père de l'enfant prodigue, vous m'invitâtes aussitôt. Comme il est bon ce père de l'enfant prodigue, mais comme vous êtes mille fois plus tendre que lui, comme vous avez fait mille fois plus pour moi qu'il n'a fait pour son fils, que vous êtes bon, mon Seigneur et mon Dieu. Merci, 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 sans fin, merci. Enfant prodigue non seulement reçu avec une si ineffable bonté, sans punition, sans réprimande, sans nul souvenir du passé, mais avec des baisers, la tunique première et l'anneau d'enfant de la maison, non seulement reçu ainsi, mais cherché par ce Père béni et rapporté par lui de ces pays lointains. Quels sont mes devoirs envers ce Père bien-aimé ? D'abord de l'aimer, ensuite de l'aimer, et enfin encore de l'aimer, car aimer contient tout. Aimer contient l'obéissance. Aimer contient l'imitation de tout ce qu'on lui voit faire et qu'il permet que nous imitions. Aimer contient une continuelle contemplation. Aimer contient le repentir des fautes commises contre lui. Aimer contient l'humilité à la vue de la distance qui sépare notre misère de sa perfection. Aimer contient le zèle à accomplir toutes les œuvres utiles à son service et conformes à sa volonté. Aimer contient l'application continuelle à être et à faire continuellement ce qui lui est le plus agréable. Voilà la sainteté, cette sainteté du pauvre Charles de Foucault, qui a compris, comme le curé d'Ars aussi l'a compris, comme tous les saints l'ont compris, que l'homme est un pauvre qui a besoin de tout demander à Dieu et à qui Dieu accordera tout si nous sommes confiants envers lui. Car vous voyez, ses devoirs envers Dieu, bien entendu, ne sont possibles que parce que Dieu, la grâce de Dieu est en nous, que parce que le Christ nous transforme en lui et nous donne évidemment de l'imiter dans son amour. Pour cela qu'il nous commande de nous aimer les uns les autres comme il nous a aimés, comme il nous aime. Et nous ne pourrons aimer les autres comme il les aime qu'en l'aimant d'abord lui de tout notre cœur et de toute notre âme. Mais d'abord, il s'agit de consentir dans la foi, c'est ce qui m'est arrivé, de consentir dans la foi à la grâce, au don gratuit que Dieu veut nous faire de lui dans l'Esprit Saint, par l'Esprit Saint. C'est un don gratuit qu'il veut donner à tous, cette grâce de l'Esprit Saint qui justement peut nous transformer, nous renouveler en lui. Elle est offerte à tous, sans mérite préalable de notre part. C'est gratuit, l'amour de Dieu est gratuit et inconditionnel. Et une fois que cet amour nous a touchés, alors nous pouvons vivre en enfant de Dieu, en enfant de lumière, conformément à sa volonté très sainte, à sa volonté d'amour. Amen.